Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, l'historiographie a régulièrement tendance à enfermer les événements entre deux dates. Il en est ainsi de la Première Guerre mondiale qui débute...
Je suis très flatté de le recevoir, d'autant plus flatté de le recevoir.
Les sources sont vraiment très importantes pour nous, nous les évoquons à chaque début d'émission. Et il y a chez vous, dans votre livre, une source primordiale qui est le contrôle postal. Qu'est-ce que le contrôle postal ?
Alors, d'abord, il faut préciser une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une censure. Il s'agit d'un élément d'évaluation de l'opinion des soldats qui a été mis en place très progressivement, mais disons à partir de 1915, amélioré en 1916, qui est un instrument extrêmement précis et en même temps extrêmement lourd puisqu'il concerne à peu près 180 000 lettres par semaine. Donc on imagine le travail considérable que ça peut représenter puisque ces lettres sont ouvertes, lues, étudiées par les services du contrôle postal et renvoyés ensuite à leur destinataire, naturellement, si elles ne contiennent pas d'éléments compromettants pour la sécurité nationale. Donc on a ainsi, semaine après semaine, pour l'ensemble des régiments français, une évaluation globale du moral des troupes, en fonction d'un certain nombre de critères, l'appréciation de la nourriture, l'appréciation des conditions climatiques, l'appréciation de l'évolution sur le terrain, l'appréciation de l'ennemi, mais aussi, ce qui m'a beaucoup été utile, des citations de lettres jugées représentatives, avec en outre un pourcentage équivalent donc effectivement à cette représentativité. Donc on a naturellement une source qui est contestable par certains aspects. Les soldats qui écrivent savent qu'ils vont être lus, donc ils n'écrivent pas absolument sans doute tout ce qu'ils pensent. Il y a aussi des phénomènes d'autocensure qui sont liés au fait que les soldats ne veulent pas affoler leur famille et cherchent essentiellement à les rassurer ou taisent les aspects les plus durs de la guerre. Néanmoins, on a vraiment un outil très remarquable qui jusqu'ici était peu étudié. En fait, c'est Jean-Noël Jeannonnet, dans un article de la fin des années 60 qu'il avait repéré, commencé à travailler sur ce thème. Et il y a eu simplement, à ma connaissance, une thèse sur l'année 1916 à partir du contrôle postal. Mais nous avons été finalement assez peu nombreux à nous intéresser à cette source qui reste encore extrêmement riche et sur laquelle peuvent se pencher bien d'autres chercheurs.
Ça se présente sous forme de fiches, c'est cela ?
Ce sont des rapports sur papier, des quantités considérables de rapports qui sont au service historique de l'armée de terre à Vincennes, tout à fait accessibles et donc d'une richesse absolument inouïe puisqu'ils permettent globalement de saisir donc le moral des troupes, pour faire simple, depuis 1915-1916 jusqu'au retour des soldats, ce qui était effectivement mon sujet, c'est-à-dire pour les dernières classes début 1920.
Vous gardez bien, vous le dites dans votre livre, une prudence méthodologique. Vous arrivez malgré tout à lire entre les lignes ?
J'essaie surtout de ne pas oublier qu'une lettre, c'est un échange entre personnes et qu'on ne peut pas comprendre cette source sans la replacer dans une forme de protocole épistolaire qui est en fait assez largement, bien sûr, le protocole du 19e siècle sur lequel on travaillait Cécile Dauphin, Philippe Lejeune, enfin bien des chercheurs, des littéraires. Mais aussi un protocole qui est le protocole de l'écriture de guerre, où effectivement, comme je vous l'ai dit, on cherche à rassurer, à protéger ses proches.
Il est difficile de sonder les reins et les cœurs.
Très difficile, oui, très difficile. Très difficile, d'autant qu'on n'a pas le contact direct avec les lettres, hein, soyons clairs. On a simplement le filtre qui nous reste, avec énormément de choses, bien entendu, mais pas le contact directement avec les lettres. On essaie néanmoins de percevoir quelle peut être la sensibilité de ces soldats, d'autant que, bien évidemment, cette source n'est pas la source unique, et que j'ai pu la croiser avec bien d'autres sources autres, notamment des sources littéraires, des récits rétrospectifs, des mémoires de soldats, des journaux de tranchées, enfin tout.
Vous citez Bordeaux,
bien sûr,
Londres.
Oui, donc toutes sortes d'écritures de guerre qui sont dans une autre forme de temporalité, qui ont un autre rapport à la guerre, qui sont parfois rétrospectives, mais qui complètent, permettent de prolonger, de nuancer tout ce que j'ai pu écrire par ailleurs sur le contrôle postal.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Bruno Cabanne, à la chronologie, non pas au 11 novembre lui-même, mais au jour précédent l'armistice. Comment se passent les derniers mois du soldat français ? Sent-il la victoire venir ? Disons à partir...
Finalement, ça n'est pas une surprise complète, mais on peut considérer effectivement que la perspective de paix était beaucoup plus à long terme. Mmh.
Quel est l'état d'esprit à cette époque des soldats? Ils attendent vraiment cette victoire? Ils ont au fond de l'espérance ou ils restent, j'allais dire, dans leur quotidien avec tout ce que cela comporte de difficultés?
Vous avez raison d'évoquer aussi cette deuxième possibilité, parce que naturellement, la possibilité de progresser est considérable. On a l'impression effectivement que les sacrifices consentis ont désormais un sens, qu'on va pouvoir parvenir à la victoire tant attendue, mais en même temps, il y a une forme d'irréalité de cette victoire. On ne sait pas exactement quelle forme elle va pouvoir prendre, et en outre, bien évidemment, il y a l'usure des 4 années de guerre, le poids des deuils que j'ai essayé de décrire, l'espèce d'épuisement général, d'autant que les conditions climatiques sont extrêmement mauvaises à l'automne 1918, et donc tout ça pèse considérablement sur le poilu, qui est tout sauf enthousiaste à l'époque.
Mmh. Donc il y a une position d'attente.
Oui, mmh. Oui, absolument.
Il y a une position d'attente. Alors, il existe aussi une peur, vous la décrivez très bien, face aux soldats de la dernière chance. Mmh. Comment décrire cela?
La peur, elle est double, c'est-à-dire qu'elle est liée d'abord à des rumeurs, qui sont des rumeurs très anciennes, sur la duplicité des Allemands, sur leurs pratiques rusées de la guerre, et à mesure que les soldats français avancent dans des territoires conquis par les troupes allemandes, d'abord, elles découvrent des paysages détruits. Il est très surprenant de voir l'importance, après toutes les horreurs de la guerre, que ces hommes ont pu connaître pendant 4 ans, l'importance que peut revêtir la découverte de vergers mutilés, d'arbres coupés au pied, ce qui scandalise littéralement les soldats, de maisons détruites, et donc cette politique de la terre brûlée, en quelque sorte, qui a été pratiquée par les troupes allemandes. Et à cette politique de la terre brûlée est liée une peur, qui est la peur des pièges. On parle beaucoup de sources ou de puits qui auraient été empoisonnés, de maisons qui contiendraient des pièges et qui représenteraient un danger très important pour les soldats. Et puis, en outre, il y a la peur de la mort stupide au dernier moment, avant même que l'armistice intervienne. Et cette peur du dernier mort, de la créancive à l'égard des Allemands qui auraient souffert autant qu'eux. En fait, on découvre à la lecture du contrôle postal, au contraire, des hommes extraordinairement remonté contre l'ennemi, désireux d'en découdre, désireux d'envahir l'Allemagne. Il y a l'idée absurde que l'Allemagne n'ayant pas été foulée sur son sol, elle ne sait rien de la guerre, et donc il faut lui montrer ce que c'est. Mmh. Il faut lui montrer ce que c'est en détruisant aussi ses maisons et aussi à travers des menaces de vengeance, notamment à l'égard des femmes. Vous avez explicitement des menaces de viol énoncées dans les lettres, qui sont naturellement extrêmement troublantes pour le lecteur, d'autant qu'elles se font dans des termes extrêmement crus et extrêmement durs. Mmh. Donc, cette violence à l'égard de l'ennemi en 1918, que l'historien anglais John Horne avait déjà un petit peu expliqué à travers sa notion de remobilisation de 1918, elle est tout à fait présente dans les correspondances. Mmh.
Alors, est-ce que l'armistice va apaiser ces esprits? C'est ce que nous verrons, Bruno Cabane, si vous le voulez bien, après une première pause. À tout de suite.
Napoléon n'aura plus de secret pour vous à l'écoute des nombreuses émissions de Jean Tullard sur Canal Académie. Écoutez Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Bruno Cabane, auteur du livre La victoire endeuillée, et nous évoquons les lendemains officiels de la guerre, les lendemains de l'armistice. Cet armistice est proclamé le 11 novembre à 11h du matin, très exactement. Comment Bruno Cabane distinguait cette réalité de l'armistice de la rumeur? Puisque, au fond, les soldats ont pu se dire, au moment où on leur déclarait l'armistice, il ne s'agit que d'une rumeur, et ce n'est pas vrai.
Oui, effectivement, il faut se méfier des reconstructions rétrospectives, notamment à notre échelle d'historien. Et j'ai essayé de suivre un peu les journaux de marche des régiments, pour voir quelle pouvait être l'approche qu'on avait eue les soldats. Parce que l'armistice, c'est d'abord essentiellement le silence qui se fait sur le champ de bataille.
Alors justement, venons-en au silence. Oui. Vous avez très très belle page sur le bruit, sur les bruits de la guerre. Les bruits de la guerre s'estompent et s'ensuit un silence. Et ce silence est parfois brisé transfiguré par le son des cloches. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Vous avez raison de rappeler que l'artillerie a dominé le paysage sonore des combattants français en 14-18, provoquant des traumatismes inouïs au-delà de la peur d'être frappé directement par un obus, vous savez, ça représente 70% des blessures, les obus à l'époque, c'est considérable. Et bien évidemment, lorsque les hommes sont frappés directement, le corps disparaît et est volatilisé. Il y a une citation de Paul Dubrulle, qui est un père jésuite qui a combattu à Verdun.
Je me permets effectivement de vous la lire. « Quand nous entendions le sifflement au loin, tout notre corps se contractait pour supporter les vibrations excessivement puissantes de l'explosion et, à chaque fois, c'était une nouvelle attaque, une nouvelle fatigue, une nouvelle souffrance. À ce régime, les nerfs les plus solides ne résistent pas, mourir d'une balle n'est rien. Notre être reste intact, mais être démembré, mis en morceaux, réduit en bouillie, c'est une crainte que la chair ne peut supporter et qui est l'essence même de l'immense douleur causée par les bombardements. »
Voilà. Bon, bah, c'est exactement ça. Effectivement, cette impression de... C'est ce fracas sonore et cette peur du démembrement et donc de la disparition totale. Or, brutalement, c'est effectivement un silence complet qui se fait sur le champ de bataille. Et comme vous l'avez dit, peu à peu, lentement, des cloches qui se mettent à sonner la victoire. Or, il faut bien voir que pour ces hommes, les derniers sons de cloches qu'ils ont entendus le plus souvent, ce sont les sons de cloches de 1914, de l'annonce de la mobilisation. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, disent que ce sont des sons de cloche beaucoup plus agréables à entendre en 1918 que ceux de 1914, naturellement. Et beaucoup évoquent effectivement le tressaillement, l'émotion que tout ça a pu représenter. Dans toutes ces régions du front, les cloches se sont tues pendant 4 années, soit que les clochers étaient détruits, soit que les Allemands aient enlevé les cloches. On a eu très nombreuses cloches qui ont été volées pour être ensuite fondues, naturellement, pour l'armement. Les quelques cloches qui restent sonnent donc l'armistice et c'est quelque chose de particulièrement fort pour tous ces hommes.
Il y a très rarement des cris de joie.
Très rarement, parce que c'est le deuil qui domine. Les premiers gestes que font les soldats au moment du 11 novembre, d'abord c'est de sortir avec beaucoup de précautions des tranchées, inquiets qu'ils sont des tireurs en face d'eux. On n'a aucune confiance dans les tireurs allemands. Et on imagine en outre qu'ils peuvent très bien ne pas avoir été prévenus. Et puis il y a certaines régions en plus, où, notamment autour de Charleville-Mézières, où les combats ont été féroces jusqu'à la fin. Et la première chose qu'on fait, c'est donc de repérer les cadavres des camarades qui sont abandonnés sur No Man's Land, souvent depuis des semaines et des semaines, et de les enterrer en plantant des croix de bois. Donc le deuil est vraiment le sentiment dominant.
Et il y a, avant de venir approfondir le sentiment du soldat, vous décrivez quasiment minute par minute, à plusieurs endroits, ce qu'il se passe peu avant cette fameuse sonnerie de 11h du matin qui sonne la fin de la guerre, en tous les cas la suspension d'armes. On tire jusqu'à la dernière minute ?
Oui, dans certaines régions, oui. Dans certaines régions, notamment à Charleville-Mézières. Vous savez, là aussi, ce sont finalement des épisodes qu'on a un peu oubliés, mais le repli de l'armée allemande, fin 1918, était un repli extraordinairement violent. On a très peu travaillé encore sur ces aspects-là et j'ai pas eu le temps dans ma thèse de développer beaucoup ça, mais on se rend compte maintenant des destructions qui ont été commises et de la résistance de l'armée allemande en dépit de son épuisement jusqu'au bout. Et notamment donc effectivement à Charleville-Mézières, où là on se bat jusqu'à la dernière minute, où on utilise, semble-t-il, des gaz contre la population civile ou ceux qui restent encore dans Charleville, et où les combats sont d'une violence absolument inouïe.
Il y a, je me permets, oui, une nouvelle citation. Les obus écrasés sur le sol, la mitrailleuse débitait sa chanson de mort, 10h45. Une salve de 150 sabats sur Don Le Ménil, 10h57. Les mitrailleuses tirent des deux côtés, 11h, là-bas, au bout de la passerelle, un clairon invisible a sonné. Cessez le feu, levez-vous, au drapeau. Et soudain, de la terre de France, des corps invisibles qui se sont blottis dans son sein pour échapper à la mort, montent une vibrante marseillaise, saluée en face par les cris des Allemands qui sortent de leurs abris et agitent leurs armes. C'était la fin. Il y a ce clairon qui est lui aussi omniprésent sur tout le front.
Pas sur tout le front, mais effectivement, la sonnerie de l'armistice est une sonnerie un peu rituelle, effectivement, et il y a eu ensuite une sorte d'idéalisation du clairon cellier qui aurait sonné le premier l'armistice et qui est évoqué dans de très nombreuses cérémonies du 11 novembre dans les années 20 et dans les années 30.
Il y a vraiment une émotion à travers vos citations. Est-ce que vous rencontrez les pleurs au moment de cette sonnerie ?
Pas tellement, c'est-à-dire que les hommes disent, une fois encore, on est dans une économie de la correspondance, on essaie d'exprimer ses sentiments avec une forte retenue, ne remettons pas notre affectivité à nous, notre manière d'exprimer nos sentiments, sans doute avec une certaine liberté dans notre société, sur des sensibilités très anciennes, elles ont presque un siècle, qui naturellement n'ont pas du tout le même comportement. Mais néanmoins, les hommes le plus souvent disent que l'émotion est telle qu'ils n'arrivent même pas à pleurer. Ils ont le sentiment d'étouffement, la joie est là, mais elle n'arrive pas à sortir. Et finalement, ils sont bouleversés, mais incapables aussi bien de l'exprimer sur leur visage qu'à travers leurs mots.
Bouleversement, silence, vraiment ce silence est omniprésent. Il y a aussi une stupeur,
oui.
vous utilisez le mot, et on a l'impression malheureusement qu'il existe une fracture entre ce front silencieux et cette arrière qui fait la fête.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il fait la fête. Il a aussi une nuance sombre, enfin globalement, c'est effectivement. Les soldats sont très choqués de ce que leur famille raconte des célébrations de l'armistice à l'arrière, notamment à Paris, où on se réjouit beaucoup, où il y a des bals populaires, où il y a des grands défilés de civils, et de choses. D'abord, les soldats ont le sentiment que ce sont eux qui ont fait la guerre et pas les civils. Et vous savez, d'autres comme moi, bien avant, ont travaillé sur ces questions-là, mais la distance entre les civils et l'arrière, même si les solidarités existent, entre les civils et le front, la distance entre les civils et le front est très importante durant toute la guerre, même si les solidarités existent. Et on le voit notamment au moment du 11 novembre, lorsque les combattants ont un sentiment profond d'incompréhension de la part des civils de ce qui se passe, de ce qui s'est joué véritablement sur le front, avec le sentiment donc, que ce sont eux qui ont fait la victoire, et le sentiment qu'on se réjouit un peu tôt, avant même le retour.
Vous dites cette retenue, ce silence et cette fracture avec l'arrière est l'expression d'une volonté, celle d'être reconnu. Le soldat n'est pas reconnu en 1918 ?
Il est héroïsé, mais il n'est pas reconnu en tant que tel. C'est un des grands paradoxes, c'est-à-dire qu'il y a un discours officiel qui héroïse naturellement les combattants de la nation, ceux qui ont apporté la victoire, mais dans le même temps, toute la démobilisation manque une partie de l'économie de la reconnaissance. Les manifestations concrètes de la reconnaissance aux soldats sont très en dessous de ce qu'ils pouvaient attendre.
Vous le répétez plusieurs fois dans votre livre, on a tendance, et d'ailleurs dans votre conclusion, vous insistez à nouveau sur cette question, c'est une armée en deuil et on a tendance à l'oublier.
Oui.
Malgré la victoire, ça reste une armée en deuil.
C'est une armée qui est profondément marquée par cette mort des frères d'armes. C'est quelque chose là aussi qui a été très longtemps négligé. Vous savez, le deuil, très difficile naturellement de travailler en tant qu'historien sur le deuil. Ce qu'ont fait un certain nombre d'historiens récemment, c'est de distinguer ce qu'ils appellent des cercles de deuil. Je pense notamment aux travaux de Stéphane Audouin-Rousseau sur ce sujet. En distinguant un cercle familial, un cercle d'amis et puis le cercle des compagnons d'armes. Ces discours des compagnons d'armes, ils apparaissent notamment au moment du 11 novembre, avec des discours des officiers qui, improvisant quelques mots au moment du 11 novembre, au moment de l'armistice, demandent à ce qu'on se souvienne de tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Et ça, sans prendre la mesure de cette souffrance-là, il me semble qu'on passe à côté d'un élément essentiel de l'armistice de 1918.
Il y a bien évidemment ces solidarités avec les morts. Il y a parfois même le syndrome, ce que vous appelez le syndrome du survivant.
La culpabilité du survivant, oui. Alors ça, c'est un... On est toujours là aussi un petit peu gêné d'utiliser des termes de psychiatrie récents. La culpabilité du survivant, c'est un terme qui a été inventé dans les années 60 par un psychiatre qui s'appelle Niederland. Mais néanmoins, avec toutes les précautions d'usage, bien évidemment, et à travers les correspondances, on se rend compte que cette culpabilité du survivant est très forte et que bien souvent les soldats d'une manière ou d'une autre manifestent leur mal-être d'être là au prix d'une autre vie et ils le font comprendre très clairement, le fait qu'ils vont pouvoir vivre mais au prix parfois de la vie d'un camarade qui était à côté d'eux et qui était touché pour des raisons totalement absurdes et ce sentiment de l'absurdité de la mort comme de l'absurdité de la survie est très, très fortement exprimé dans les correspondances.
Dans leur tête, les soldats savent qu'ils vont se séparer, il y aura une nostalgie du front.
Oui, c'est un terme qu'a utilisé Teilhard Chardin en parlant de la nostalgie du front. C'est un terme extrêmement choquant, parler de nostalgie du front, mais néanmoins, là aussi, paradoxalement, c'est un sentiment très profondément diffusé chez les soldats, le fait d'avoir vécu ensemble des choses très fortes, l'idée qu'il va falloir se séparer de cette solidarité d'armes, et je pense une profonde inquiétude face à l'avenir. L'avenir, c'est bien entendu retrouver ses proches, mais est-ce qu'ils sont encore là, est-ce qu'ils sont pareil? Est-ce que on va réussir à retrouver une place, sa place dans la vie civile? Est-ce que on va être reconnu à la mesure de tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va savoir trouver les mots pour dire ce qu'on a vécu? Et est-ce qu'on va avoir en face de soi des gens qui vont être en mesure de vous écouter ou qui voudront tourner la page très très vite? Tout ça, ce sont des sentiments qui agitent profondément les combattants de 1918.
Alors ces soldats vont chercher à donner un sens à ce conflit. C'est ce que nous allons voir, Bruno Cabanne, dans un instant. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, un jour dans l'histoire. Je reçois Bruno Cabanne, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son livre « La victoire endeuillée », paru au Seuil. À tout de suite.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Je reçois Bruno Cabanne, auteur du livre « La victoire endeuillée » paru aux éditions du Seuil, et nous évoquons le sort des soldats français, des 5 millions de soldats français qui se doivent de revenir dans leur foyer, qui viennent d'apprendre que la fin de la guerre, en tous les cas l'armistice, a été sonné. Alors ils cherchent un sens à ce conflit. C'est une armée en deuil, c'est une armée en silence, et psychologiquement, ils essaient de comprendre le pourquoi des choses.
Oui, et ils trouvent, je pense, en partie l'explication dans la remobilisation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une forme des terres détruites par l'armée allemande lors de son repli, réactivait fortement le souvenir des destructions du début de la guerre. Et donc l'image du barbare est là très très forte.
Jacques Bainville dira plus tard du traité de Versailles qu'il s'agissait d'un traité moral, et cette question morale est très présente chez les soldats.
Effectivement, c'est un traité moral, mais cette moralité-là, enfin, ce fonctionnement en termes moraux, il est très présent dans la correspondance aussi. Et l'idée, effectivement, une fois encore, de la responsabilité de l'Allemagne, l'idée qu'il faut faire payer à l'Allemagne ce qu'elle a fait, c'est quelque chose que l'on trouve non seulement au niveau des diplomates qui se réuniront à Versailles, mais aussi dans la correspondance du plus humble des soldats français.
Alors venons-en, Bruno Cabanne, si vous le voulez bien, à la démobilisation en elle-même. Quand commence-t-elle exactement?
Elle commence quelques jours après le 11 novembre, très très vite, hein, pour les plus âgés. Alors, il faut dire d'abord que c'est une entreprise d'une complexité extrême, puisque l'armée française doit démobiliser le plus rapidement possible, bien évidemment.
C'est la conséquence, dites-vous, de l'intervention de Clémenceau le 6 décembre 1918.
Oui, on peut être étonné que ça soit
si tard.
Bien sûr. Mais une fois encore, il est bien facile, après des décennies, de jeter ce regard rétrospectif sur une entreprise, une fois encore, à laquelle néanmoins l'armée se préparait, bien évidemment. Mais il y avait d'autres priorités aussi à l'époque. La mise en place de l'occupation de la Rhénanie, l'entrée en Alsace-Lorraine, des pays totalement détruits, bref. La démobilisation est un des problèmes majeurs qu'a le gouvernement à ce moment-là.
Vous racontez des anecdotes qui font un peu peur, j'allais dire même affligeantes, ces fameux stocks de vivres qui étaient inutiles pour l'armée et que délaissait l'armée et qui par ailleurs auraient pu servir pour les populations civiles.
Et qui sont laissés à l'abandon complètement. Oui, on est dans des... J'ai effectivement développé quelques exemples de ce type. On a des cas tout à fait surprenants où manifestement la machine militaire est... Voilà, prise un peu à dépourvu devant l'immensité de la tâche. Cela dit, une fois encore, ne noircissons pas trop le tableau. L'armée a réussi à démobiliser donc 5 millions d'hommes en l'espace de 18 mois à peu près, ce qui est assez, assez extraordinaire, à un rythme soutenu. Et en respectant ce principe de la démobilisation par classe, qui semblait plus juste, somme toute, aux soldats, puisque on est dans un monde en 14-18 où la classe d'âge est très importante. C'est une forme de sociabilité dans beaucoup de campagnes, c'est une solidarité entre des hommes qui partent en même temps au service militaire et donc qui sont partis en même temps aussi à la guerre, soudés par cette impression de faire partie d'un certains groupes. Bon. Et l'idée qu'effectivement, on doit démobiliser d'abord ceux qui ont servi le plus longtemps semble tout à fait juste. Cela dit, très vite au Parlement, se développent des débats, notamment de la part de, animés par des députés des régions qui ont été envahies, se demandant si on n'aurait pas intérêt à démobiliser d'abord ceux qui viennent de ces régions pour aider à la reconstruction. Si on n'a pas intérêt à démobiliser d'abord les agriculteurs ou les pères de familles nombreuses. Bref, tous ceux qui sont utiles au pays.
En Angleterre, c'est très différent,
oui,
en fait.
Oui, en Angleterre et aux États-Unis, c'est très différent. Aux États-Unis, ça va être une démobilisation essentiellement par régiment et une démobilisation en fonction, justement, des besoins sociaux et économiques en Angleterre. C'est-à-dire que c'est très étonnant, mais ça, c'est peut-être le pragmatisme des Anglais qui vont diffuser auprès de leurs soldats des petites fiches indiquant le type de métier qu'ils faisaient, le type de métier qu'ils veulent faire après-guerre ou leur formation. Bon. Et ensuite, en fonction des besoins de telle ou telle entreprise, on va libérer les hommes. Bon. C'était naturellement très très astucieux. En France, on choisit, comme en Italie d'ailleurs, un système complètement différent.
Alors, vous opposez tout de même, Bruno Cavan, cette notion d'égalité et cette notion de justice. Il y en a, au fond, il y a des soldats qui demandent justice parce qu'ils ont perdu un père, parce qu'ils ont perdu un frère. Il y a de nombreux cas particuliers.
Absolument. C'est-à-dire que le système est, tout en étant très simple sur le principe, extraordinairement complexe parce que vous avez ce qu'on appelle des majorations de classe en fonction d'une sorte de cas spécifique. Et des soldats écrivent, des familles de soldats écrivent à des responsables militaires pour demander la libération de tel ou tel, en fonction effectivement, vous l'avez dit, du fait que voilà, ils sont chargés de famille, qu'ils ont perdu plusieurs frères pendant la guerre. Vous avez une sorte de prise en charge personnelle de la démobilisation, chacun essayant effectivement naturellement d'être libéré le plus tôt possible.
Alors Bruno Cavan, naturellement, la démobilisation s'opère en différentes phases. Est-ce que vous pourriez nous présenter matériellement, j'allais dire, ce processus de démobilisation? Quel est le parcours du soldat qui rentre chez lui?
Alors d'abord, distinguons bien deux choses. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais distinguons bien deux choses. D'abord, il y a les soldats, effectivement, et puis les prisonniers de guerre. On a 500 000 prisonniers de guerre qu'il ne faut pas complètement oublier, qui, eux, reviennent assez largement, enfin, pour certains par leurs propres moyens et dans un chaos à peu près complet. Bon. Mais reparlons donc plus spécialement des combattants, eux reviennent en deux grandes phases. Une première phase qui va de novembre au printemps 1918 novembre 18 jusqu'au printemps 1919, avril 1919. Il y a à peu près tous les costumes qu'on avait stockés en 1914, il n'en restait pas grand-chose. Ils étaient mangés par les mythes ou dispersés. Bon. Et donc il faut rapidement refaire des costumes. Alors, ça sera le fameux costume à Brami que l'on va faire donc à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais comme on doit faire les choses très très vite, le plus souvent il se résume à un uniforme militaire qu'on a teint et essayé de reconstruire pour la circonstance, de retravailler pour la circonstance, ce qui fait que les hommes sont parfaitement ridicules avec ce costume, et là aussi, l'humiliation rajoutée, je vous l'ai dit, au retour dans les wagons de marchandises, tout ça est naturellement très mal perçu par les soldats.
Alors Bruno Cavan, le soldat naturellement attend une réparation, et c'est cette réparation, si vous voulez bien, que nous allons évoquer après une dernière pause.
Canal Académie vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Un jour dans l'histoire reçoit Bruno Cavan, auteur du livre « La victoire endeuillée ». Alors Bruno Cavan, nous voilà à la sortie de cette guerre, le soldat revient chez lui et il a besoin d'une sorte de réparation. Cette réparation, selon le psychanalyste Claude Barrois, a deux phases, deux aspects particuliers.
Oui, Claude Barrois rappelle qu'il est finalement psychiatre. Un, les civils ont le sentiment que c'est fini. Et que c'est fini d'autant plus que leurs proches reviennent. Les autres sont marqués, on l'a dit tout à l'heure, par le deuil et portent avec eux le souvenir des combattants morts.
Alors, il y a d'autres soldats, Bruno Cabanne, dont on n'a pas encore parlé. Ce sont les soldats qui partent en Rhénanie et qui foulent le sol allemand. Que ressent le Français quand il arrive sur le sol allemand ?
Des sentiments mêlés de puissance, de pouvoir enfin être au contact de l'ennemi. Une fois encore, les correspondances manifestent la volonté de vengeance. Et en même temps, un sentiment de peur. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les violences commises en Rhénanie sont très en dessous des promesses des combattants dans leurs lettres. Les violences sont essentiellement des violences contre les monuments, la destruction de la statue de Bismarck à Mönchengladbach ou d'un monument aux morts dans la même ville, destruction d'habitations, un peu de saccage. Pendant 4 années, sauf exception, était une guerre où l'ennemi a été largement invisible. Il y a eu naturellement des contacts, bien évidemment, il y a eu des combats même au corps à corps. Mais globalement, c'est une guerre majoritairement industrielle où l'ennemi était beaucoup fantasmé plutôt que réellement vu. Et beaucoup haï. On a tendance à l'oublier maintenant, après tant d'années de réconciliation franco-allemande, mais la haine franco-allemande est d'une violence absolument inouïe. Donc, naturellement, le moment du contact, de la mise en contact des combattants allemands et français est un moment déterminant. Et tout cet imaginaire de guerre nourri pendant 4 années est là porté presque à son paroxysme.
La confrontation est finalement plus prosaïque. Est-ce qu'on peut comparer cette confrontation avec ce qui se passera en France dans les années 40 ?
À mon sens, non. La situation est très différente. L'effondrement de la France en 1940 est un effondrement relativement rapide. Une fois encore, il s'agit là d'une confrontation qui fait suite à 4 années de piétinement dans les tranchées, à une sorte de montée en puissance encore en 1940.
Alors Bruno Cabanne, nous arrivons au terme de cette émission. Après avoir fréquenté les poilus pendant une si longue période, comment réagit-on ? Comment vit-on ? Est-ce que vous en avez tiré une émotion certaine sur cette période ?
Oui, l'émotion, je pense que oui, on peut qu'être très touché par ces lettres, bien évidemment, mais comme on l'est toujours par les correspondances. Néanmoins, il y a à la fois un sentiment effectivement d'émotion, bien sûr, mais aussi un sentiment de distance. C'est-à-dire que c'est un monde qui nous est extraordinairement présent, sensiblement, mais qui, me semble-t-il, est un monde qui nous est profondément étranger. Et je veux vraiment insister sur ce point. On a un peu trop tendance, parfois, à plaquer abusivement nos modes de fonctionnement, nos modes de comportement sur un monde qui, une fois encore, est un monde ancien, avec des valeurs qui ne sont plus nécessairement les nôtres. Et il y a aussi un effort de compréhension à faire quand on est face à des lettres qui nous restent quand même relativement lointaines.
Dans les dernières lignes de votre livre, en conclusion, vous présentez la démobilisation au fond comme assez réussie, assez efficace. D'un autre côté, le titre de votre livre est « La victoire endeuillée ». Est-ce que vous tirez de cette période un certain pessimisme sur la nature humaine ?
Incontestablement. Je pense que je n'avais pas besoin de ce livre pour avoir une forme de pessimisme sur la nature humaine. Oui, bien sûr, je pense que ce qui est frappant, mais ça c'est frappant quand on étudie la sortie de guerre, et je pense encore plus quand on étudie les atrocités de 1914, la capacité, le passage à l'acte, et d'une facilité inouïe, et tout à fait déconcertante pour un historien, très troublante pour un historien. Quand on étudie de près des combattants dans ce type de conflit, les pulsions de violence sont une chose, mais la possibilité, une fois encore, de les concrétiser est très, très souvent là. Et le passage à l'acte, une fois encore, extrêmement, extrêmement facile. Donc le franchissement des seuils de violence est quelque chose de finalement d'assez banal.
Eh bien, c'est sur ces paroles peu rassurantes que nous allons nous quitter. Bruno Cabanne, je vous remercie.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français 1918-1920 » paru dans la collection « L'univers historique » aux éditions du Seuil. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une émission sur Vichy. Merci et à bientôt.